Joanne Campagna, présidente de la section locale du syndicat, dit « Les employés tombent comme des mouches. Il manquerait 17 préposés aux bénéficiaires sur un effectif de 31 préposés. Les gens s'absentent plus qu'ailleurs, mais vraiment, on a un taux qui est anormalement élevé, au-dessus de 50 % d'absence par rapport à 15-20 % ailleurs. Seulement, entre le 5 et le 11 avril, le 5 et le 11, ça c'était la semaine passée, une douzaine de corps de travail étaient à découvert. Le conseiller syndical, à qui on va parler là, explique que les absences sont notamment causées par des congés de maladie, des départs non remplacés ou des congés de maternité. Il y a des gens qui, il y en a qui songent actuellement à quitter leur emploi, il y en a d'autres qui sont au bout du rouleau. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres congés de maladie bientôt. Une autre citation. C'est vraiment à coup de menace qu'on force les gens à rester. Les représentants syndicaux dénoncent aussi tout le climat d'intimidation qui persiste au CHSLD des Basques. Quand on lit ça, là, on est découragé. C'est la dernière place où on voudrait aller porter son CV. Là. Yannick Proulx, conseiller syndical, est en ligne. Bonjour, M. Proulx.
Bonjour.
Il n'y a pas un peu d'exagération là-dedans?
Absolument pas. Tout ce que vous venez d'affirmer là, comme...
Oui, je
comme
sais, c'est vous qui...
Comme statistique,
non, je le sais, c'est vous qui le dites, là. Mais moi, là, quand je lis, c'est à coup de menace qu'on force les gens à rester. Dans le langage syndical, parfois, le mot « menace » est assez élastique et à géométrie variable. Donnez-moi des exemples de menaces pour forcer les gens à rester.
Ben, une plainte, recevoir une plainte d'une famille au ministère concernant la qualité de soins, puis que ça va être toi, la personne responsable, être congédié. On a eu une personne qui a été menacée de congédiement. Je pense que c'est des menaces quand même assez sérieuses, là, étant donné quand on parle du travail, le congédiement, c'est quand même la peine capitale, là. Que je pense que les menaces sont là, sont sérieuses. Je pense que les gestionnaires sont un peu en panique aussi dans cette situation-là, puis transfèrent leur stress sur les employés.
Ouais.
Fait que c'est pas rose là. C'est ouais. c'est pas pour le fun, je vous dirais, qu'on dénonce une situation comme ça. C'est parce que ça va plus du tout. Là.
17 préposés aux bénéficiaires sur un effectif de 31 préposés au CHSLD. Au CHSLD des Basques. 31, ça, est-ce que c'est le nombre qui est écrit dans le livre? Est-ce que c'est le nombre qui est écrit dans le livre du nombre de préposés que l'on pourrait avoir au CHSLD des Basques? Parce que là, 17 sur 22, c'est une chose, 17 sur 31, c'est une autre affaire. Est-ce qu'on a déjà été à 31?
Je vous dirais que pour faire rouler une journée normale de travail, ça prend 12 à 13 quarts. OK?
Ouais.
Fait que comptez ça, multiplié par une semaine, là. Disons que pour avoir un effectif vraiment à temps plein où chacun pourrait prendre deux journées de congé par semaine puis qu'il n'y aurait pas à outrance de temps supplémentaire, là, faudrait qu'il soit entre 26 et 28. Il y a toujours un petit peu plus de gens sur les listes pour s'assurer là, que il y a des fois il y a des remplacements. Il peut y avoir deux noms sur un poste là, parce
ouais.
que personne est en maternité
ouais.
ou tout ça.
Ouais.
Mais je vous dirais, on peut descendre ça un peu, là, hein, 26, 28, mais ça ne prend pas 15 là, pour faire juste une journée normale de travail, comme je vous dis, ça en prend 12 ou 13.
Donc, ça veut dire que pour faire une journée de travail, si ça en prend 12 ou 13, ça c'est dans un contexte, pas dans le contexte idéal, là, dans le contexte normal, c'est ce que vous me dites, là.
C'est dans le contexte normal.
Dans le contexte normal, là, ça en prend 12, 13, puis là, vous me dites que pour faire ça, à l'heure actuelle, si je compte bien, là, il y en a 3, 4 en réserve. Les autres travaillent tout le temps.
Les autres travaillent tout le temps, puis là, ben, il y a tellement d'absences que les gens ont de la misère à avoir des congés hebdomadaires. Comme je vous dis, le temps supplémentaire obligatoire, qu'on entend parler énormément, là, mais qui existe aussi chez les préposés aux bénéficiaires, ben, c'est à toutes les semaines et souvent tous les jours.
C'est parce que ça a l'air tellement gros, M. Proulx, que j'essaie de voir à quelle place qu'est la trappe syndicale là-dedans, s'il y en a une. Puis j'essaie de voir, d'autre part, s'il n'y a pas d'attrape syndicale, comment on a fait pour en arriver là? Parce que, écoutez, il y a pénurie de main-d'œuvre, je veux bien croire, mais habituellement, quand il y a pénurie de main-d'œuvre, tu fais attention à ceux qui restent, tu fais ce pas dessus, tu leur fais pas de menaces, tu les places pas dans une situation qui pourrait, psychologiquement parlant, venir les perturber en plus. Je vous pose la question, à votre avis, comment on en est arrivé là?
Mais c'est tellement vrai ce que vous dites qu'on se pose exactement la même question. Puis je vous dirais qu'on serait pas rendu dans les médias. On n'est pas un syndicat qui est habitué, nous, à faire des alarmes pour rien. Si on est rendu là, c'est parce que nous non plus, on comprend pas. On n'a pas d'écoute de notre direction pour être en mesure de réaliser là, des progrès significatifs. Puis on demande l'intervention de la ministre. On est rendu là. Ouais. C'est plate que ça soit au Basque, c'est plate que ça soit proche de chez nous, mais c'est ça.
Parce que quand on replace les choses dans leur contexte, quand vous dites on n'a pas d'écoute de la direction, une direction locale, si j'ai bien compris, là, depuis qu'on a réformé le système de santé avec les six, une direction locale, il n'y en a plus. Quand vous parlez de direction locale, vous parlez de Mme Malo à Rimouski, là.
Bah, c'est subalterne, c'est une direction régionale, vous avez raison. Mais il y a quand même un enjeu de direction locale là, qui gère à la petite semaine et qui semble avoir bénéficié d'une certaine protection, là, je vous dirais, mais qui sévit là dans le. Il y a un enjeu de climat de travail en plus d'un enjeu d'absence au travail, là, ce qui envenime, je vous dirais, les problèmes d'absence.
Oui, mais
au travail.
Comment ça se fait, M. Proulx, qu'il y a un problème de climat de travail? Est-ce qu'il y a un problème de climat de travail parce que les gens qui font la petite gestion, là, parce que ça prend quand même quelqu'un pour à qui te référer si t'as un problème, c'est sûr qu'on n'appelle pas à tout bout de champ Rimouski, je présume, mais comment l'ambiance de travail a-t-elle pu se détériorer? Ça s'est détérioré parce que on voudrait bien engager du monde, mais il y a personne qui vient appliquer. L'ambiance de travail s'est détériorée parce que les gens qui sont les gestionnaires là, ils l'ont pas pantoute. Écoutez, vous nous présentez une situation qui semble être, entre guillemets, dramatique, puis c'est comme si on n'était pas capable de mettre le doigt sur le bobo.
Ben, en fait, dans les deux phrases que vous venez de dire, vous le mettez le doigt sur le bobo. Il y a un problème de gestion locale, il y a un problème de pénurie de main-d'œuvre, on a de la misère à engager, puis on manque tellement de gens que si on ajoute tout ça ensemble, ben ça, c'est un peu comme un cercle vicieux, là. Ça augmente le problème, puis les gens, ben, s'absentent encore plus, sont de plus en plus au bout du rouleau. Donc, tous les ingrédients d'une recette dramatique sont là. C'est vrai que c'est dramatique, c'est dommage. Puis on espère vraiment que la ministre va pouvoir passer une coupe de consignes puis demander des comptes à la direction locale pour être capable de redresser cette situation-là assez rapidement.
Qu'est-ce que... Mais M. Proulx, quand vous dites que vous faites appel à la ministre, là, elle fait pas de miracle. Mettons que vous rencontrez la ministre, hein? Mettons que la ministre est devant vous ce matin, là. Qu'est-ce que vous avez à lui raconter? Avez-vous des situations à lui expliquer? Avez-vous des exemples à lui donner? Parce que ça a l'air un peu flou, tout ça. On dit, bon, il y a une part de responsabilité sur la direction locale, il y a une part de responsabilité sur la direction régionale, il y a une part de responsabilité qui est due à la pénurie de main-d'œuvre. Puis vous dites, on demande l'intervention de la ministre. Bon, ben, elle est devant vous, la ministre. Vous avez quoi? Comment vous allez lui présenter ça?
Ben, la première chose, c'est de lui dire de faire comme le 6 des Laurentides, puis de demander au 6 du Bas-Saint-Laurent de passer une directive claire à l'effet que le temps supplémentaire obligatoire, ça doit être une mesure d'exception et non un mode de gestion des absences au quotidien. Ça, là, ce petit détail-là, là, ça fait en sorte que ça va davantage, ça va arrêter d'écœurer le monde, premièrement, parce que là, les gens, ils veulent pas, vous avez bien raison, ils veulent pas y aller porter leur CV là-dedans. Ils savent qu'ils vont se faire séquestrer au travail à peu près à tous les jours. Fait que ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est d'écouter des solutions qu'on a apportées puis qui sont pas encore mises en œuvre, mais il y a un petit peu de budget qui va avec ça. C'est, il n'y a pas de préposé aux bénéficiaires? Parfait. Est-ce qu'on peut engager, par exemple, des aides de service? Est-ce qu'on peut engager une infirmière auxiliaire additionnelle? Est-ce qu'on peut faire des choses qui vont permettre au quotidien de déstresser, je vous dirais, le personnel, puis de diminuer un petit peu leur fardeau de tâches? Des gens qui pourraient être engagés spécifiquement pour les bains, spécifiquement pour les lits, spécifiquement pour certaines tâches qui ne demandent pas l'ensemble de la formation de préposé aux bénéficiaires. Il y en a des solutions. Il faut seulement être écouté, puis il faut qu'on ait le courage de le faire. Parce que les gens à qui on parle dans cette grande direction-là maintenant, là, le désavantage de ça, là, c'est qu'ils sont de plus en plus loin du terrain, le fait que les directions sont régionalisées. Fait que le temps qu'ils nous écoutent, qu'ils rencontrent des comités, qu'ils parlent à leur gestionnaire, qu'ils nous reviennent, ben ça fait depuis le mois de décembre, là, nous autres, qu'on les a soumis ces solutions-là.
Mais une situation que j'ai vécue, pas que j'ai vécue personnellement, mais que j'ai vécue par personne interposée. Vous savez, Monsieur Prou, puis ça, c'est pas votre problème, là, mais moi, j'ai l'impression que dans le réseau, à l'heure actuelle, que ce soit à Rivière-du-Loup, que ce soit à Trois-Pistoles, que ce soit à Notre-Dame-du-Lac, que ce soit à l'Apocatière, partout où il y a des hôpitaux qui sont sous la responsabilité du CIS Bas-Saint-Laurent ou de n'importe quel autre CIS dans la province de Québec, vous allez voir où je veux en venir. C'est qu'il y a des gens localement à qui on a confié des fonctions. Et tout à l'heure, c'est probablement ces gens-là qui vont se retrouver en épuisement professionnel ou en burn-out parce que j'ai l'impression que ce monde-là qu'on a placé pour prendre des décisions dans les hôpitaux, ce sont des gens qui souvent sont là pour faire une job de bras. Si tu veux avoir ton salaire, si tu veux avoir ta paye, si tu veux conserver ton statut, répète ce qu'on te dit de dire puis occupe-toi pas du reste. Et j'ai l'impression... Je veux pas que personne prenne personne en pitié si c'est pas nécessaire, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens là-dedans qui sont des exécutants qui souffrent en silence, puis tout ce qui les tient à l'ouvrage comme gestionnaire, c'est la paye.
Bien ça, on est capable de s'entendre là-dessus, M. Saint-Pierre, parce qu'on le constate, puis je vous dirais même que c'est les effets directs ça, de la réforme Barrette. Puis le temps qu'on revire le navire de bord à grandeur de la province, c'est sûr que ça va être long. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des actions concrètes puis des changements d'attitude qui peuvent être faits puis qui peuvent être commandés, si vous voulez, par une ministre dans un avenir plus rapide que ça.
Parce que j'en ai connu du monde, moi, qui sont devenus des gestionnaires, puis c'est des maudites bonnes personnes, autant des hommes que des femmes, des maudites bonnes personnes. Puis pourtant, à l'ouvrage, ces gens-là sont devenus, dans l'esprit de plusieurs, des salopes ou des chiens sales. Vous comprenez ce que je veux dire?
Vous avez tout à fait raison. On a des gens, on a de nos membres, des fois, qui vont remplacer temporairement des gestionnaires puis qui vont revenir sur le plancher pour des raisons que vous nommez. Fait que ouais. C'est vrai que ça existe. C'est un ingrédient supplémentaire, je vous dirais, à la recette là, générale qui fait en sorte que ça va pas très bien.
Parce que, et c'est ma dernière question, M. Prou, là, on a tourné autour des gestionnaires locaux, on a parlé un peu des gestionnaires régionaux, mais donc, est-ce qu'on doit conclure l'entrevue de ce matin en pensant qu'au niveau de la direction régionale, là, Mme Malot, qui est en tête, là, est-ce qu'on doit comprendre que de l'écoute, il y en a pas pantoute, c'est comme parler tout seul?
Ben, je vous dirais que sur plusieurs, il y a quelques dossiers que ça va bien, mais la majorité des dossiers, je vous dirais que c'est extrêmement difficile, puis c'est d'autant plus difficile depuis que tous ces changements-là ont été faits dans les directions régionales.
Merci, M. Prou.
Merci.
Yannick Prou, conseiller syndical.